VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du mercredi 10 août 2016. Au sommaire ce soir.
Au Mali, poursuite des combats entre ex-rebelles et membres du groupe armé pro-gouvernemental Gatia, près de Kidal, dans l'extrême nord-est du pays.
Toujours au Mali, l'armée dit avoir retrouvé 4 corps, d'entre les 5 soldats portés disparus à la suite d'une attaque djihadiste présumée à Mopti.
Les corps sans vie des 4 militaires maliens ont été retrouvés dans le fleuve. C'est la suite au combat entre l'armée malienne et des assaillants.
Le Soudan du Sud rejette le projet onusien d'envoyer 4000 casques bleus additionnels pour amener la paix à Djouba.
Ici aux États-Unis, encore une controverse suscitée par une déclaration de Donald Trump accusé d'incitation à la violence contre Hillary Clinton.
Et plein feu sur les Jeux Olympiques.
Juste après le journal.
Les corps de 4 militaires maliens ont été repêchés dans la région de Mopti. La découverte fait suite à l'embuscade qui leur avait été tendue par des djihadistes entre Mopti et Tenenkou. Dans la région de Kidal, les combats Gatia-CMA se sont intensifiés dans la journée de ce mercredi. Ces affrontements se sont déroulés aux alentours de Kidal, mais des combattants du Gatia ont souvent pourchassé ceux de la CMA jusqu'à l'entrée de la ville. Kassim Traoré.
Les affrontements Gatia-CMA ont repris ce mercredi 10 août à Tessik, une localité située à quelques 50 km de Kidal. Déjà, plusieurs véhicules sur la 60aine que la CMA a engagés dans le combat ont été détruits ou pris. Le dernier renfort de la CMA a été défait par les Gatia. Les combattants de la CMA ont été obligés d'abandonner leurs véhicules. Les Gatia les a pourchassés jusqu'à l'entrée de Kidalville. Ces informations ne sont pas confirmées du côté des responsables de la CMA, qui disent que les combats sont toujours en cours et que leurs hommes maintiennent leur position. Par ailleurs, dans la région de Mopti, les corps sans vie de 4 militaires maliens ont été retrouvés dans le fleuve. C'est la suite au combat entre l'armée malienne et des assaillants. Cela vient conforter la thèse d'une noyade, parce que les combats se sont déroulés sur la route de Tenenkou, une zone inondée en cette période hivernale. Dans un communiqué, le gouvernement avait déclaré que 5 militaires maliens sont portés disparus, un autre blessé. Il a également ajouté que les assaillants ont récupéré 4 véhicules des forces armées maliennes et ont détruit un autre, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Conséquence de l'insurrection de Boko Haram, les États-Unis ont promis 37 millions de dollars supplémentaires pour venir en aide aux populations de la région du lac Tchad, touchées par les attaques des djihadistes nigérians. Cette aide viendra de l'Agence américaine d'aide au développement, USAID, et servira particulièrement aux habitants de Difa, dans le sud du Niger, d'après les diplomates américains. L'enveloppe s'ajoute aux 318 millions de dollars déjà versé depuis 2015 par Washington.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, 11 militaires congolais et un casque bleu blessés lundi lors d'affrontements avec les rebelles ougandais ADF ont finalement été évacués. Et c'est ce qu'annonce l'ONU après qu'une première tentative d'évacuation ait échoué. Les hélicoptères de secours avaient en effet essuyé des tirs avant de rebrousser chemin. La MONUSCO, la force onusienne sur place, n'a pas dit où les soldats blessés avaient été transférés pour recevoir les soins.
Le Soudan du Sud a rejeté une proposition des États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU d'envoyer 4000 soldats supplémentaires, disant qu'elle porte gravement atteinte à sa souveraineté et menace d'un retour au colonialisme. Nathalie Barge.
Le porte-parole du gouvernement sud-soudanais, Michael Makuei, a déclaré que la proposition donne aux Nations Unies la capacité de gouverner. Le texte appelle notamment à un vote d'embargo sur les armes au Soudan du Sud si le secrétaire général Ban Ki-moon rapporte dans une période d'un mois que les autorités ont bloqué la force régionale. Le Conseil de sécurité pourrait voter vendredi sur la proposition. Après la reprise des combats le mois dernier, un ancien envoyé spécial américain avait suggéré que l'Union africaine et l'ONU administrent temporairement le pays. Des responsables onusiens disent que le gouvernement a commencé une répression en saisissant des dizaines de passeports de travailleurs de l'organisation et en imposant des restrictions sur les voyages et la livraison de l'aide alimentaire. La reprise de combats meurtriers le mois dernier dans la capitale Djouba, après l'accord de paix signé en août 2015, a suscité la crainte d'une nouvelle guerre civile et aggravé la crise humanitaire au Soudan du Sud.
La Zambie vote jeudi pour choisir son président dans un scrutin qui s'annonce très serré entre le sortant Edgar Lungu, élu l'an dernier, et son rival Hakainde Hichilema, après une campagne électorale émaillée d'incidents. Les précisions de Tatiana Mosso.
Monsieur Lungu, 59 ans, a été élu président en janvier 2015 pour achever le mandat de son prédécesseur Michael Sata, décédé brutalement en octobre 2014. Il avait battu d'une très courte majorité Hakainde Hichilema, qui avait qualifié le scrutin de simulacre et qui se présente jeudi pour la cinquième fois à la présidentielle. Le niveau de tension est plus élevé que par le passé. Des militants du parti de Monsieur Lungu, le Front Patriotique, ont attaqué lundi un bus de campagne du Parti Uni pour le développement national de Monsieur Hichilema. Des actes de violence sans précédent qui salissent le bilan historique d'élections pacifiques de la Zambie. Ces dernières semaines, les violences avaient conduit à la suspension de la campagne à Lusaka. Pendant cette campagne, le candidat Lungu a montré un visage plutôt radical, menaçant ses opposants à plusieurs reprises. Le vainqueur du scrutin de jeudi sera élu pour un mandat de 5 ans. Si aucun des deux candidats n'obtient plus de 50% des voix, un second tour sera alors organisé. L'enjeu de cette élection se joue autour de l'économie. L'an dernier, le président Lungu a même organisé une prière dans un stade implorant un redressement de l'économie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont dénoncé aujourd'hui les crimes de génocide perpétrés par le groupe État islamique contre les minorités de chrétiens, chiites et yézidis dans le sombre tableau annuel des libertés religieuses dans le monde dressé par le Département d'État. Jacques Aristide.
La diplomatie américaine est catégorique. Les acteurs non étatiques comme les djihadistes du groupe État islamique et de Boko Haram continuent de se ranger parmi les plus monstrueux auteurs d'abus contre la liberté religieuse dans le monde, écrit-elle dans ce rapport dévoilé par le secrétaire d'État adjoint Anthony Blinken. L'emploi du terme de génocide, qui a des implications juridiques selon le droit américain, avait déjà été utilisé par le secrétaire d'État John Kerry et par des experts des Nations Unies pour qualifier les crimes perpétrés par ce groupe en Irak et en Syrie. Dans ce même panorama exhaustif sur l'état de la liberté religieuse en 2015, dans près de 200 pays, le département d'État s'en prend également à ses habituelles bêtes noires en matière de répression religieuse, Arabie Saoudite, Iran, Chine, Pakistan, Afghanistan, Soudan. Et comme les années précédentes, l'administration américaine s'alarme de la poussée de l'antisémitisme et de l'islamophobie en Europe, dans le contexte de la multiplication des attentats djihadistes et de la crise des migrants.
Moscou a annoncé que son armée allait suspendre ses frappes chaque jour pendant 3 heures à partir de demain jeudi autour d'Alep, deuxième ville de la Syrie, devenue l'épicentre des combats opposant le régime aux rebelles. L'objectif est de faciliter une fenêtre humanitaire pendant laquelle seront suspendues toutes les activités militaires, frappes aériennes et tirs d'artillerie. C'est ce qu'a annoncé le général Sergueï Routskoï lors d'une conférence de presse.
Le général américain qui commande la coalition dirigée par les États-Unis contre le groupe État islamique estime qu'environ 45 000 combattants du groupe djihadiste ont été tués en Irak et en Syrie depuis que les bombardements de la coalition ont commencé il y a 2 ans. Le général Sean McFarland a fait ce rapport lors d'une conférence de presse aujourd'hui.
L'OTAN a réaffirmé aujourd'hui son engagement envers la Turquie en tant que membre important de l'Alliance, un effort visant à calmer les inquiétudes d'Ankara. Un porte-parole de l'OTAN a déclaré ce mercredi que la Turquie fait des contributions substantielles aux efforts conjoints de l'organisation, tandis que l'OTAN fait face aux pires défis de cette génération dans le domaine sécuritaire. Et cette prise de position intervient au lendemain d'une rencontre très médiatisée entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg en Russie.
Les autorités russes affirment avoir déjoué des attentats terroristes en Crimée, attentats qu'auraient mené l'armée et les services de renseignement ukrainiens. Moscou a annoncé la mort de 2 de ses soldats samedi et lundi dans des affrontements avec des groupes envoyés, dit-il, par le ministère ukrainien de la Défense. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Le journal des Jeux Olympiques sur VOA Afrique avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Aucune nouvelle médaille africaine hier à Rio.
Oui, le compteur reste bloqué à deux. Les deux médailles d'argent de la natation sud-africaine. Chad Le Clos a raté le doublé la nuit dernière en finale du 200 mètres papillon où il termine quatrième. Une course remportée par l'imbattable Michael Phelps. 24 médailles aux Jeux Olympiques pour le nageur américain, dont 20 en or, un record qui va être dur à battre dans l'histoire olympique.
L'exploit hier en ping-pong pour l'Afrique, Nicolas.
Le pongiste nigérian Kwadri Aruna est devenu le premier Africain de l'histoire à atteindre les quarts de finale en simple aux Jeux Olympiques. En huitième de finale, Aruna, 40e joueur mondial, a sorti l'Allemand Timo Boll, ancien numéro 1 mondial. Il s'est ensuite incliné en quart de finale pendant la nuit contre le numéro 1 mondial chinois Malong.
Autre résultat mardi pour les représentants africains.
En football féminin, plus de représentants africains. Les Sud-Africaines jouaient face au Brésil, déjà qualifiées. Match nul 0-0, un score qui élimine l'Afrique du Sud. Élimination également des Zimbabwéennes après une nouvelle déroute contre l'Australie 6-1. Les explications de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre partenaire à Kinshasa.
Pas de miracle pour les Zimbabwéennes qui clôturent leurs Jeux Olympiques de Rio comme elles l'ont débuté. Par une lourde défaite 6-1 face à l'Australie. Cette première participation de Maktai Warriors du Zimbabwe au tournoi féminin de football des Jeux Olympiques a finalement tourné à la correctionnelle. Trois défaites en autant de matchs dans un groupe F qui n'était visiblement pas à leur taille. Déjà éliminés après le 6-1 leur infligé par l'Allemagne d'entrée, puis la défaite 3-1 face au Canada lors de la deuxième journée, elles avaient pour seule mission de sauver l'honneur ce mardi contre l'Australie. Mais c'est finalement une nouvelle raclée qu'elles ont reçue. Seule consolation en dehors de l'expérience unique des JO pour les Maktai Warriors du Zimbabwe, le fait d'avoir inscrit à chacun de leurs trois matchs le fameux but de l'honneur. Rio, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En natation sur 100 mètres nage libre, l'Ivoirien Thibaut Amani Dano, très loin derrière les favoris en 52 secondes 78, sans parler de l'Éthiopien Robert Kibos Apté, dont la photo a fait le tour du monde pour sa forme non olympique dans le bassin de Rio. Le dernier temps des qualifications pour lui en 1 minute 04. Sur l'épreuve de canoë monoplace homme, le Sénégalais Jean-Pierre Bouris a terminé 18e des séries, insuffisant pour se qualifier pour la demi-finale. Sur les tatamis de Rio, élimination du Gabonais Paul Kibikai chez les moins de 81 kilos, battu par le Japonais Takanori Nagase. Placé dans un groupe relevé, la Tunisie en handball masculin s'est à nouveau inclinée cette fois contre le Danemark 23-31. Très belle performance en revanche pour les handballeurs égyptiens qui se sont imposés 26-25 face à la Suède. L'Égypte, troisième du groupe B, conserve toutes ses chances pour la qualification. Le Marocain Mohamed Arjaoui en boxe dans la catégorie des moins de 91 kilos éliminé, tout comme le Congolais Mpi Anoel Ngamisenge en moins de 75 kilos. En revanche, le Camerounais Dieudonné Wilfried Seyin Senge s'est qualifié pour les 16e de finale de la catégorie. L'équipe kényane de rugby a 7 affronté la Grande-Bretagne qui l'a emporté 31-7. Enfin, les basketteurs nigérians se sont inclinés 80-89 face à la Lituanie.
Pour l'heure, au tableau des médailles.
Les États-Unis toujours en tête grâce à la natation devant la Chine et l'Australie. Les Américaines ont par exemple remporté la nuit dernière la médaille d'or par équipe en gymnastique.
À suivre ce mercredi, Nicolas Pinault.
En volleyball, les Camerounaises face à la Russie. Autre sport collectif, le basketball féminin. Les Sénégalaises pour éviter une troisième défaite ce mercredi contre le Canada. En football, les Algériens déjà éliminés affrontent le Portugal. Le Nigeria affronte la nuit prochaine la Colombie. Mais les Super Eagles se sont déjà qualifiés. En judo, chez les moins de 90 kilos, le Béninois Dosu Yovo a été éliminé en huitième de finale par le Suédois Marcus Niemann. En sabre, le porte-drapeau de la délégation béninoise, Yemi Geoffrey Apiti, a lui aussi été éliminé d'entrée. On suivra en boxe pour le Congo-Brazzaville chez les moins de 64 kilos. Le combat de Dival Forele Malonga Zalamou. Enfin, Archangeline Fouadji Songbu, l'haltérophile camerounaise, entre en lice chez les moins de 69 kilos.
Merci Nicolas Pinault.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
D'après le dernier rapport publié sur l'économie algérienne, la Banque mondiale annonce que celle-ci connaîtra en 2018 une forte baisse de ses réserves de change qui devrait se chiffrer à 60 milliards de dollars. Ceci en raison de la chute des cours des hydrocarbures. Au Cameroun, des cargaisons de marchandises en provenance de l'Union européenne ont débarqué au port de Douala et ont été validées par le système attestant de leur éligibilité au régime préférentiel des accords de partenariat économique, soit un abattement de 25% sur les droits de douane. L'accord de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne est entré en vigueur le 4 août dernier. Signé en janvier 2009, il permettra de créer à terme une zone de libre-échange entre les deux parties. Air France lancera une nouvelle ligne entre Paris et Accra au Ghana. La compagnie desservira l'aéroport d'Accra-Cocota 3 fois par semaine au départ de Roissy-Charles de Gaulle. Le premier vol est prévu le 28 février 2017.
Vous êtes toujours à l'écoute de VO Afrique. Morgane Guiriec et Chérubin Gabi Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Morgane, la RDC.
L'ONU invite la majorité présidentielle et l'opposition congolaise à se retrouver autour d'une table pour s'écouter, discuter et trouver un consensus sur la façon dont ils veulent conduire le processus électoral. Réagissant à cette invitation, Jean-Claude Mouvemba, président du groupe parlementaire du Mouvement du Peuple Congolais pour la République, martèle que la seule chose à faire est de respecter la Constitution. Il a été joint au téléphone par Nanit Talani.
Nous avons beaucoup de respect par rapport aux organisations des Nations Unies, par rapport à l'accord. Mais nous avons un problème de délai constitutionnel. Madame, il est fort étonnant que la résolution 2277 des Nations Unies ne puisse pas être acceptée par la MONUSCO. Cette résolution stipule très bien que les élections doivent avoir lieu selon la Constitution. Or, nous avons appris, nous avons entendu M. Kabila nous envoyer balader en 2018 pour les élections. Et la MONUSCO et les Nations Unies nous demandent d'aller s'asseoir à une même table par rapport à quelqu'un qui ne veut même pas respecter le délai constitutionnel. C'est pour cela que le rassemblement dont la dynamique de l'opposition fait partie ne pourrait jamais accepter s'asseoir à un dialogue et en plus avec quelqu'un que nous avons déjà reculé.
Donc pour vous, l'ONU devrait juste inviter les acteurs politiques au strict respect de la Constitution.
C'est ça, les élections dans le cadre de la Constitution. Or, M. Kabila est en train de violer sciemment la Constitution. M. Kabila a refusé d'octroyer le 250 millions de dollars par an que le Parlement congolais octroyait à la CENI pour la préparation des élections. En 5 ans, nous sommes à 1 milliard de dollars que M. Kabila n'a donné que 61 millions de dollars pour que la CENI puisse travailler sur les élections. Donc nous voyons déjà la mauvaise volonté de M. Kabila. Comment voulez-vous aller s'asseoir avec quelqu'un qui ne respecte même pas sa parole?
Est-ce qu'on peut dire que le fait que les Nations Unies invitent les acteurs politiques à trouver un consensus arrange plus le gouvernement que l'opposition ou le peuple?
Mais bien sûr, parce que le peuple congolais n'attend que l'élection dans les délais constitutionnels. Donc si les Nations Unies essayent d'encourager le dialogue, nous nous posons la question du dialogue. Pourquoi? Parce que le dialogue devait juste établir par rapport au fichier électoral. En sachant très bien, madame, l'Organisation internationale de la francophonie, que la CENI a fait venir au Congo pour voir s'il était possible d'organiser les élections, a bien dit que dans 4 mois, il peut y avoir les enrôlements, un nouveau fichier central pour que nous puissions aller aux élections du 27 novembre.
Jean-Claude Mouvemba, président du groupe parlementaire du Mouvement du Peuple Congolais pour la République.
Dans Washington Forum ce jeudi, on vous emmène à Rio où se sont ouverts les Jeux Olympiques d'été. Dans un climat sociopolitique tendu, le Brésil relève le défi d'accueillir ses 2 semaines de compétition de haut niveau. Malgré les questions de sécurité, pour l'heure, la fête semble réussie. Mais sur le plan sportif, comment faire fi des scandales de dopage à répétition qui frappent les plus grandes nations sportives? Inédit aussi la participation d'athlètes réfugiés, mais quelle égalité avec les autres sportifs? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
On met le cap sur le Burundi. Les autorités ont fermé 20 bureaux de change et arrêté plusieurs cambistes. Ils vendraient les devises à des prix non reconnus par la BRB. Sur le marché noir, un dollar américain se vend à plus de 2300 francs burundais contre 1650 au prix officiel. Bien des spécialistes affirment que l'économie burundaise est mal en point en raison du manque de devises. La dépréciation de la monnaie a également un impact sur les importations et exportations des produits et services au Burundi. Christophe Kurunziza, dans un reportage de Bujumbura.
Depuis deux mois, les prix de devises étrangères comme le dollar américain, l'euro ou la livre anglaise ne cessent d'augmenter au marché noir, tandis que sur le taux officiel, il est estimé à 1650 francs burundais pour un dollar. Seuls les importateurs des produits stratégiques à l'étranger peuvent disposer d'une enveloppe consistante pour importation, mais les autres importateurs moyens ne peuvent pas disposer de plus de 50 000 dollars américains par an. La pénurie de devises étrangères est perceptible à Bujumbura et à l'intérieur du pays. Ce pharmacien dit que les choses se compliquent, mais reste quand même confiant. Témoignage.
J'achète chez les grossistes, lesquels nous disent que ils n'ont pas de devises sur le marché. Dans les pharmacies, nous avons de plus en plus des ruptures de certains médicaments. La situation continue à s'empirer jour par jour. Je pense qu'avec l'intervention des autorités ces derniers jours, je pense que nous allons avoir peut-être un léger mieux.
Le gouverneur de la Banque centrale pointe du doigt les cambistes ambulants et les bureaux de change d'être la source de cette dépréciation de la monnaie burundaise, Jean Chiza. Cet échangeur de devises affirme que la balle est dans le camp de la Banque centrale et refuse de disponibiliser les devises aux clients. Depuis plusieurs mois, l'Union européenne, qui donnait plus de la moitié du budget du pays, a suspendu sa coopération pour pousser les autorités burundaises à dialoguer avec l'opposition. Dès lors, les devises se raréfient et l'économie burundaise ronronne, selon les spécialistes. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Première visite officielle hier en Russie du président turc après le coup d'État manqué. Recep Tayyip Erdogan a présenté à son homologue Vladimir Poutine ses excuses et ses regrets suite à l'affaire de l'avion russe abattu en novembre dernier. La visite s'est déroulée dans un cadre de froid entre la Turquie et les Occidentaux. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint Jean Marcoux, spécialiste de la Turquie et professeur de sciences politiques à Grenoble en France.
C'était une visite prévue. Il est vrai qu'elle intervient à l'issue du coup d'État manqué dans le cadre d'une dégradation des relations entre la Turquie et ses alliés occidentaux, tant l'Union européenne que les États-Unis. Cette dégradation, elle est basée sur un certain nombre de faits antérieurs, mais elle a été accélérée par le coup et en particulier par toute la polémique autour de cette idée qu'il y aurait une complicité des États-Unis et de la CIA avec Fethullah Gulen.
Il y a eu une réaction de l'OTAN qui réitérait son soutien à la Turquie. Est-ce qu'on peut dire que ça provoque des inquiétudes au sein de cette famille?
Oui, je pense que l'OTAN a éprouvé le besoin de réagir, notamment pour mettre un peu un terme à ce développement de cette rumeur anti-occidentale et anti-américaine, mais je ne pense pas qu'il y ait véritablement une inquiétude fondamentale sur les orientations politiques, stratégiques de la Turquie au Moyen-Orient. La Turquie fait partie effectivement de l'OTAN et on voit mal comment elle pourrait retourner ses alliances dans le cadre actuel.
Est-ce que c'est une situation que Vladimir Poutine peut exploiter pour déstabiliser davantage l'OTAN?
Et il est normal qu'il exploite un peu cette situation et notamment qu'il flatte la Turquie. Bon, il a effectivement congratulé Recep Tayyip Erdogan après le coup d'État. Il ne faut pas oublier qu'il y a six mois, il a accusé la famille Erdogan de participer au trafic de pétrole de l'État islamique. Donc on passe un peu d'un extrême à l'autre.
Jean-Marc Houge, à Grenoble, en France.
Présidentielle américaine 2016, le candidat républicain Donald Trump accuse les médias d'avoir déformé ses propos au sujet des défenseurs du port d'armes et de son adversaire démocrate Hillary Clinton. Cette dernière fait face, elle aussi, à une controverse liée à la présence, dans l'une de ses réunions de campagne, du père d'Omar Mateen, l'homme armé ayant abattu 49 personnes dans une boîte de nuit d'Orlando, en Floride, au mois de juin. Timothée Dolangmaï.
Commençons par le candidat républicain qui, dans un discours mardi, a prêté à Mme Hillary Clinton l'intention de vouloir abolir le deuxième amendement de la Constitution américaine garantissant le droit de porter des armes. Donald Trump a suscité le tollé en laissant entendre que seuls les défenseurs du port d'armes sont à même de stopper Mme Clinton, des propos que d'aucuns ont interprétés comme un appel à la violence contre la candidate démocrate. Ce que dit M. Trump est dangereux. Une personne cherchant à devenir président des États-Unis ne saurait suggérer la violence de quelque manière que ce soit, a réagi le directeur de campagne de Mme Clinton, Robbie Mook. Lors de la convention de son parti le mois dernier, la candidate démocrate avait assuré n'avoir aucunement l'intention de faire abolir le deuxième amendement. « Je ne veux simplement pas que vous soyez abattu par quelqu'un qui ne devait pas posséder une arme en premier lieu », avait-elle déclaré. Réagissant à cette controverse, Donald Trump a déclaré à la chaîne de télévision Fox News qu'il parlait uniquement du bloc politique très soudé des partisans du port d'armes qui pourrait empêcher l'élection de Mme Clinton, ajoutant qu'il n'y a pas d'autre interprétation possible de ses propos.
Côté démocrate, le camp de Hillary Clinton fait face, elle aussi, à une controverse de moindre ampleur, il est vrai, Timothée.
Lors d'un meeting électoral lundi en Floride, Mme Clinton a rendu hommage aux victimes de la fusillade du 12 juin 2016 à Orlando, la pire attaque du genre dans l'histoire des États-Unis et qui avait fait 49 morts et 53 blessés. Et alors que la candidate démocrate s'exprimait, on pouvait voir dans la foule derrière elle nul autre que Sadiq Mateen, le père d'Omar Mateen, l'auteur de la fusillade d'Orlando. Sadiq Mateen confiera par la suite à la presse qu'il est démocrate et qu'il compte voter pour Mme Clinton. Il a aussi affirmé avoir été invité au meeting, ce qu'a catégoriquement démenti un responsable du Parti démocrate mardi. Certes, Sadiq Mateen avait condamné l'attaque terroriste menée par son fils à Orlando, mais sa présence au meeting de Mme Clinton n'était pas moins gênante.
Merci Timothée Donangmaï.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme International Music, Comedy et Country Music. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écoutez de la bonne musique et partagez vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001 202 619 3140. Vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Michel Joseph a dirigé la mise en onde. Présentation Morgane Guiriec et Chérubin Gaby Dorsil.
Tour à tour à la console, Wagner Robert et notre ami Abdelrahman. Thank you. Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Merci à nos 1,5 million de fans sur Facebook. On maintient la conversation. Enfin, n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.